Rendons grâce à Dieu pour cette troisième journée.
Et
nous bénissons Dieu pour les éminents de Dieu qui sont ici à Lisanga, qui nous accompagnent depuis le début de la semaine. Les cinq maladies qui rongent l'église de mon pays.
Et
ce que j'appelle mon pays, c'est sûr, c'est aussi votre pays. Après la grande introduction dans laquelle nous avons parlé des motivations, des raisons d'être de cet enseignement, nous avons commencé à aborder le deuxième point, les maladies de l'église de mon pays. Hier, nous avons en deux points abordé deux aspects. Nous avons d'abord essayé de définir la maladie, c'était quoi. Et nous avons fait mention des 10 principes attachés à la maladie. À la fois sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Aujourd'hui, avant juste d'aborder les tout derniers principes et d'aller directement à la première maladie, j'aimerais faire avec vous quelques lectures, trois. Et ces lectures ne sont que des relectures, j'allais dire. En Roi chapitre 13, au verset 33. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il cria des nouveaux prêtres des hauts lieux. Et cela parmi tout le peuple. Et soulignez bien ce qui va suivre. Quiconque en avait les désirs, il est consacré prêtre des hauts lieux. Nous lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous partons du verset 13 au verset 15. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En les faisant, ils disaient: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les sept fils
d'Eskeva,
juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est
Paul,
mais vous, qui êtes-vous? Déclinez votre identité, qui êtes-vous? Nous terminons avec le premier livre de Samuel, au chapitre 2, et là nous lirons du verset 22 au verset 24. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes, celles qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Hier, en terminant, nous avons abordé un dixième principe attaché à la maladie. Nous avons dit qu'on ne pouvait pas ne pas voir les ravages de la maladie sans tirer des leçons. Et ainsi devenir sage. Que des gens qui vivent comme s'il n'y a pas eu un passé. Alors qu'il y a des histoires devant nos yeux qui sont comme des matériels didactiques. Qui nous disent: voilà, celui-ci a fait ça et voilà où ça l'a amené.
Et
les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si tu fais ça, tu finiras aussi là.
Les
tout derniers principes, c'est que la maladie de l'Église de la République démocratique du Congo a deux caractéristiques. La première caractéristique, elle est certes à ses débuts, mais des débuts assez avancés. Maladie grave, mais récupérable. Maladie grave, mais que l'on peut encore éradiquer.
La
deuxième caractéristique de la maladie de l'Église de mon pays, elle touche certes tout le corps. Mais le point de départ, ça a été les sacerdotes, ça a été la chair, ça a été la direction ou la tête. Il est rare. Une maladie commence par attaquer les bancs pour atteindre la chair. J'aimerais même le dire autrement. Toute maladie qui commence par les bancs ne touche jamais toujours la chair. Mais toute maladie qui commence par la chair finit par toucher les bancs. C'est pourquoi nous qui nous tenons ici, nous devons faire attention. Je le disais hier, nous ne transmettons pas toujours ce que nous disons, nous transmettons surtout ce que nous sommes. La prière est que Dieu nous aide et nous qui avons la responsabilité de la direction à être sérieux, à savoir que nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Dans la Bible, il nous a montré trois cas de figure en termes de leadership.
Juges 21,
verset 25.
On
parle d'un premier cas de figure, absence de leadership. En ces temps-là, il n'y avait point de chef, point de roi. Et la conséquence, anarchie. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Deuxième cas de figure que nous montre Juges chapitre 5, verset 6 ainsi que verset 7. Il y a certes présence des leaders, certes présence des chefs, mais des gens occupant les postes manquant les contenus, la compétence. Au temps de Shamgar, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Ils sont obligés de se débrouiller. Pourquoi? La Bible donne la raison. Parce que les chefs étaient sans force. Il y avait certes des gens devant, mais qui n'arrivaient pas à jouer le rôle. Le troisième cas de figure, c'est la présence des vrais leaders, des vrais chefs. Dans Juges chapitre 5, au verset 2, Déborah fait cette merveilleuse déclaration. Elle dit, les chefs se sont mis à la tête du peuple et le peuple s'est montré prêt à combattre. Les gens ne savent pas toujours ce qu'ils doivent faire. Ils ont besoin d'une tête qui doit leur dire allons dans cette direction. Il est étonnant de voir combien de centaines de wagons qui pèsent plus que la locomotive sont tiré par la locomotive. La seule locomotive qui est devant peut tirer plusieurs wagons. Leader, nous devons avoir conscience de notre influence. J'ai quelquefois vu l'influence des leaders sans qu'ils disent aux gens. J'ai connu un pasteur sans être un West Africain qui s'habillait toujours en tenue de West Africain. Et dans son église, il y a 100 hommes, il y a 80 qui s'habillent comme ça, sans qu'ils leur disent. Renard Bonkès est venu ici en 90, j'étais encore jeune dans le ministère. Quand il prêchait, il disait et tous les jeunes serviteurs, c'était j'aime beaucoup les chemises sans col et sans cravate.
Je n'ai
pas dit aux gens de Philadelphie, c'est comme ça que vous devez vous habiller. Je vois ça de temps en temps.
Et quand je dis de temps en temps, je suis modeste. Il y a certains qui ont mes tics verbaux sans être moi.
Et ça va me sous comment colobalokola ngai kasi bazanga été.
J'ai entendu quelqu'un dire allez, j'ai dit mais quelqu'un j'entends quelqu'un qui dit souvent allez.
Naoka kamutimoka lobaka allez mingi mingi.
Amen.
Amen.
Et si la maladie commence par la chair, la guérison commencera aussi par la chair. Et parmi ces maladies, il y a la première. Que nous avons appelée la maladie de Jéroboam. Et la maladie des fils de Skeva. Absence d'appel authentique. Et absence d'expérience authentique avec Dieu. Cette maladie a affaire à deux choses essentielles. La maladie de Jéroboam et des fils de Skeva
a
affaire premièrement à notre relation avec Dieu, c'est-à-dire sa qualité et à la vocation des hommes et des femmes qui se disent appelés de Dieu. Que des hommes qui conduisent les autres qui n'ont pas ou qui n'ont plus de relation avec Dieu.
Que
des gens qui se tiennent devant que Dieu n'a jamais appelé. Et on n'est pas étonné qu'il y ait une baisse dans la qualité de vie de l'église de mon pays. Et dans le cas de la maladie de Jéroboam et des fils de Skeva, il y a 5 cas de figure. Le premier cas de figure, il y a soit absence totale de relations avec Dieu. Dans un homme ou dans une femme de Dieu qui conduit et qui dirige. Deuxième cas de figure, il y a baisse dans la qualité de la relation. Il est devant, il conduit, il dirige, il influence. Mais la qualité de la relation a baissé. Il n'a pas tout perdu. Mais il n'a plus aussi tout comme autrefois. Troisième cas de figure. C'est perte totale de la relation. Quand je dis perte totale, c'est différent du premier cas de figure où je parle d'absence, parce qu'absence, il n'y a jamais eu. Mais dans la perte totale, quelqu'un a eu quelque chose. Et puis pour certaines raisons, il a perdu. Quatrième cas de figure, il y a des gens qui sont dans la moisson sans appel. Ils se retrouvent dans une position sans que Dieu soit l'auteur de cela. Cinquième cas de figure, il y a de ceux qui se retrouvent dans une position de direction et d'influence, mais trop tôt. Les gens qui auraient dû s'asseoir et recevoir encore, ils sont soit improvisés eux-mêmes ou ils sont improvisés par d'autres leaders. Seigneur, aide-nous. Et le premier cas de figure que j'ai mentionné, c'est qu'il y a aujourd'hui dans les sacerdoces des personnes qui n'ont jamais rencontré l'homme de Galilée, qui ne sont jamais passés par la repentance et la conversion. Et parce qu'ils ne sont jamais passés par la repentance et la conversion, ils ne peuvent pas expérimenter ce que Jean-Baptiste a appelé produire des fruits digne de la repentance. Le leur demander, c'est trop. Ils ne peuvent parce qu'ils ne l'ont jamais rencontré. C'est comme si un enfant qui est dans le ventre, tu veux lui dire, apprends à marcher. Pour qu'il marche, il doit sortir. Hommes, vous qui prêchez l'évangile, vous qui avez des dizaines, des centaines et des milliers, j'aimerais vous poser la question, mais poser la question, es-tu né de nouveau? As-tu es-tu passé par la véritable nouvelle naissance? Et nous l'avons lu dans 1 Roi 13:33. Des gens qui s'improvisent sans une relation réelle. Jéroboam vient dire qui veut? expérience avec Dieu ou pas, viens. Seigneur, épargne-nous de cela. Il est étonnant quand on lit 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 13. La Bible nous parle des fils du sacrificateur Élie. En plaçant côte à côte, ces versets en place côte à côte, trois termes qui normalement ne peuvent cohabiter. C'est un peu comme l'huile et l'eau. Au verset 13, ils sont appelés sacrificateurs, prêtres, ceux qui tiennent les choses sacrées et font les services. Titre sacrificateur. Quand ils passaient à la cité, on les appelait sacrificateurs. Révérend Ofni. Révérend Ofiné. Mais bizarre, le verset 12 dit ils ne connaissaient pas l'Éternel. Sacrificateur. Mais ne connaissant pas Dieu, le terme connaître là, c'est le même terme qui est utilisé dans Genèse
4:1.
On dit Adam connut Ève sa femme. C'est pas qu'avoir des informations, c'est être en relation mais intime. Sacrificateur, mais ne connaissant pas Dieu. Aujourd'hui encore, il y a des gens en col pastoral ne connaissant pas Dieu. Il y a des gens qui conduisent mais ne connaissant pas Dieu. Et il y en a plein. Non seulement qui dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu, les versets ajoutent ils étaient pervers. 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 Seigneur, on peut être sacrificateur et pervers aussi. Et ne pas connaître Dieu. Alors nous avons accueilli les hommes de Dieu avec solennité. Si vous êtes encore là, levez la main. Moi, je lève la main. Pasteur, comment tu hésites? Alors, si tu es assis à côté d'un homme de Dieu, pose la question, est-ce que tu connais Dieu? Tu es pervers? Il ne suffit pas d'être appelé sacrificateur. Mais est-ce que tu connais l'Éternel? Est-ce que tu les crains? La version française courant va plus loin.
Biblia français ambangu mbangu ekeki mosika.
Français courant dit ils étaient des vauriens.
Français ambangu mbangu lobi bazaki bato pamba.
Ils ne se préoccupaient pas du Seigneur.
Pe bango banaki ko kipe makambo ya nkolo te.
Serviteurs du Seigneur, mais qui ne se préoccupent pas du Seigneur.
Basali nankolo kasi bazo kipe makambo ya nkolo te.
Au fait, ils n'étaient pas des serviteurs de l'Éternel, ils se servaient de l'Éternel.
Bango bazalaki ko salela Yahweh te kasi banaki ko misalela na sima kombo na Yahweh.
Ils ont passé des années dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel n'avait aucun secret.
Finé
et Ophni connaissaient tous les ustensiles. Ils connaissaient la maison de l'Éternel, mais le Dieu de la maison ne les connaissait pas. Ils avaient toutes les informations sur la maison de l'Éternel, sauf sur les propriétaires de la maison. Tu peux avoir un doctorat en théologie et ne pas connaître Dieu. Tu peux avoir plusieurs maîtrises en divinité et ne pas connaître Dieu. Des fauriens qui ne se préoccupaient pas du Seigneur. Comment on peut apparemment le servir sans se préoccuper de lui? Parole de vie va plus loin.
Parole de vie,
il dit, il ne valait rien ses enfants. J'ai dû la lire la suite dans cette version. Il ne reconnaissait pas l'autorité du Seigneur. Toi qui prêches Christ, tu aimes les présenter comme sauveur. Mais j'aimerais te poser la question, est-il aussi ton Seigneur? Tu aimes parler de lui comme sauveur. Est-il aussi ton Seigneur? Et le terme Seigneur utilisé dans toute la Bible, c'est un terme tiré du féodalisme.
On
parle du suzerain, un roi qui avait tout pouvoir et toute autorité. Et tout celui qui était suzerain, il y avait au-dessus de lui des vassaux. Qui n'avait pas de volonté propre. Qui lui était totalement soumis. Seigneur, je n'aimerais pas seulement que tu sois mon sauveur. Je veux aussi que tu sois mon sauveur. Mon Seigneur et mon sauveur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, la plupart des fois, il s'est fait appeler serviteur de l'Éternel. Et le terme serviteur, en grec doulos, qui veut dire esclave volontaire. Celui qui n'a pas de volonté propre devant son Seigneur.
Et
acte 19 que nous avons lu,
verset
13 à
15,
nous parle des fils d'Esqueva. Prêt à se servir du nom sans être en relation avec les propriétaires du nom. Mais ils sont prêts à se servir de ces noms au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Mon pasteur me disait cette vérité. C'est vrai, c'est pas écrit dans la Bible, mais c'est pas très loin. Il dit les démons et les diables ne sont pas des moyens pour certifier les appels, mais quelquefois ils connaissent mieux les vrais appelés des faux. Les démons, malgré qu'ils sont démons, ils ont dit, Jésus, nous connaissons. Paul, nous connaissons. Et vous, présentez-vous. J'ai jamais oublié. Jeune dans la foi. Nous étions devant un cas de délivrance.
Et ça faisait
30 minutes, on était en train de lutter. Les démons résistaient à partir. Et puis un frère à nous qui est venu. Mais pourquoi vous traînez? Quand il s'est avancé, les démons ont dit, Alingala, yoko tutika.
Les démons lui ont dit, toi, laisse.
Olingina panzayo.
Tu veux que je dise tout?
L'homme a 20 euros à la kiwa.
Hier à 20 euros,
on a vu les frères calmement. Ils sont pas omniscients, mais ils connaissent des choses. Et alors que notre leader faisait la délivrance, il a arrêté et dit, tous ont continué, mais cure-dame après.
Celui qui faisait la délivrance a dit, on va continuer, mais après, tu vas passer à la cure-dame.
Parce que les démons ont donné des informations. Et quand il est venu là commencer hier à 20h, tu étais où?
J'étais avec Ewasso.
Ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 7,
versets
22 à
23,
Jésus-Christ parle du sort final de ceux qui se sont servis du nom sans être en relation avec le propriétaire du nom.
7, 22 à 23.
Permettez-moi le terme, ils ont le culot de venir revendiquer
quelque chose.
N'avons-nous pas prophétisé et dit par ton
nom?
N'avons-nous pas chassé des démons par ton
nom?
Prophétisé, c'est dire des choses sous l'inspiration de l'Esprit. Et quand ils disent ils ont chassé les démons, ça suppose que les démons ont obéi. Ils disent par ton nom. Ils vont plus loin. N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Et il reste sur le service. Et quand Jésus répond, il ne nie pas le service. Il focalise sur la relation. Éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Un, deux, vous qui commettez l'iniquité. J'aimerais dire, on peut commettre l'iniquité et prophétiser. J'aimerais aller plus loin. On peut commettre l'iniquité et parler et prophétiser. On peut commettre l'iniquité et faire des miracles. Les miracles, la prophétie, toutes ces choses ne sont pas les thermomètres de la sainteté. J'aimerais pas dire qu'il faut désormais douter critère. Non, j'aimerais dire que ce n'est pas le seul critère. C'est pourquoi j'aime dans Luc chapitre 10, versets 17 à 20, les disciples sont rentrés, Christ les avait envoyés en TP.
Pour
la première fois, ils découvrent qu'ils ont la puissance.
Et
les démons peuvent leur obéir.
Quand
ils arrivent devant le maître,
Seigneur,
même les démons étaient soumis à nous.
Et
ils restent sur le service. Jésus s'est réjoui, mais j'imagine il bouge la tête. Il place la primauté de la relation sur le service.
Il
dit, réjouissez-vous non pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous de la relation. Nous ne serons pas étonnés les jours où la trompette va sonner. Ça sera un dimanche. Il est possible que des cultes continuent normalement. Pasteur et adjoint et choriste restent. Et ils verront seulement que quelques membres ont disparu. Ils diront, mais Onini.
Ça c'est quoi ça?
Magicien contre une église. J'ai pris. Si ça sera un dimanche que ma prédication ne finisse pas, celui qui voudra prendre mon micro et continuer, qu'il continue. Moi, je serai à la rencontre de celui que j'ai connu par la foi. Et en ce jour-là, comme l'apôtre Paul dit, je connaîtrai comme j'ai été connu. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les connais? Absence de relation. Deuxième cas de figure. Il y a des personnes qui ont eu une vraie relation avec Dieu à un moment de leur vie. Avec même une qualité. Et puis quelque chose s'est passé. Soit ils ont tout perdu subitement. Soit ils ont commencé à baisser jusqu'à perdre. Combien des hommes de Dieu sont encore là devant? Ils sont conscients. Certes qu'ils n'ont pas tout perdu. Mais ils sont aussi conscients qu'ils n'ont plus tout. Ils sont conscients que quelque chose s'est passé. Un roi 11, verset 14. Parlant de Samson, la Bible dit, son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Oh, il
n'est
pas détaché totalement. Il est toujours, mais plus tout entier. Une autre version anglaise dit, il ne fut point totalement intègre. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5, nous parle à la fois d'un constat, mais aussi d'un appel à la repentance, et qui se termine par une menace de sanctions. J'ai souvent étudié les tons dans la parole de Dieu. L'un de nos profs nous avait donné un moment dans Nairobi comme des voix. Étudiez les tons dans la parole de Dieu.
Il disait
quelquefois, le message n'est pas dans ce que l'on dit, le message est dans les tons.
Il
dit, quand Adam et Ève pêchent, il avait dit que Dieu posait la question, Adam, où es-tu? Le ton peut cacher tous les messages. A-t-il dit, où es-tu? A-t-il dit, où es-tu? Même phrase. Mais le ton cache un message. Et je peux lire le ton de tristesse dans Apocalypse 2, 4 à 5. Le Seigneur, après avoir loué les qualités d'une église,
j'ai
pu imaginer qu'il baisse le ton.
Mais
ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Je t'en veux pour ça. Que des gens ce soir ici. Que d'autres qui me suivent par la télé. Que d'autres qui suivront par CD. Que d'autres qui suivront par tout ce qu'il y a comme technologie aujourd'hui.
J'aimerais
me poser la question.
Es-tu
toujours celui que tu as toujours été? Que des gens pour qui le Seigneur est nostalgique. Le Seigneur regarde ta relation avec d'autres fois. Il a la nostalgie. Il dit j'aimais le Roland d'autres fois. L'actuel, c'est pas ma tasse de thé. Est-ce que Dieu est content de toi aujourd'hui? C'est pas un homme, c'est Dieu qui dit j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Remarquez, il n'a pas dit que tu n'aimes plus. Tu aimes, mais plus comme autrefois. Tu as un amour, mais en qualité, différent de celui d'autrefois. Je
ne
dis pas que tu m'as abandonné. Mais qualitativement, ce n'est plus la même chose.
Il y a
des gens qui montent en notoriété, mais qui perdent en qualité dans la relation.
Que
des gens qui montent en célébrité, mais qui perdent en qualité
dans la relation.
Seigneur, entre la célébrité et la relation, je choisirai la
relation.
Que me sert-il d'avoir mon visage sur toutes les banderoles et ne pas être en contact avec toi? Que me sert-il de ne jamais passer inaperçu? Partout on me connaît et toi tu ne me connais plus. Tu as quelque chose contre toi. Et il est dit, et il demande à ces jeunes prédicateurs d'à peine 50 ans de te dire, j'ai quelque chose contre toi. Il me dit de te dire, je t'en veux. Il mérite de te dire, comme on nous disait comme quand on était petit, petit aux anamitif nangai.
J'ai contre toi, j'ai quelque chose contre toi.
J'ai une dent contre toi. Mais il
ne
s'arrête pas là.
Le
Dieu bon, il dit, souviens-toi d'où tu
étais.
Fais l'anamnèse. Fais un retour dans le passé. Localise quand ça s'est passé. Remarque, c'était quand j'ai commencé à contacter telle personne. Quand j'ai commencé à lire tel livre. Souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que c'est là où il y a un début. Et bizarre, Dieu ne dit pas, je veux t'aider à te souvenir. Il dit, c'est à toi de le faire. J'aimerais supplier un homme.
Aîné. Yaya.
Contemporain, ceux qui sont de la même génération que moi.
Yo, za nambula moko nangai.
Plus jeune.
Elenge.
Souvenez-vous quand c'est arrivé.
Bobanza, et comment ka tango nini?
J'aimerais vous dire, aîné et ami de ma génération et plus jeune, il est possible que vous redeveniez celui que vous étiez.
Naliko lo banayo kulutu yo zambula moko nangai pe oze elenge ko lekangai et ko sala mais to zonga moto za la kakala.
Je n'attends que ça.
Zamba zo ze la kaka yango.
S'il y a une phrase que j'aime dans la Bible.
Soke za molonga maloba moko na linga kala Biblia.
C'est quand ce jeune homme qui est parti loin de son père.
Ezali tango elenge mobala kena ka mosika tata na ye.
Qui est tombé dans la déchéance.
O yakoya ki na ko bebisama.
Je ne sais pas si dans votre Bible c'est écrit. Dans la mienne, il est dit, étant rentré en lui-même. Seigneur, donne ce soir que quelqu'un rentre en lui-même. Il avait de la barbe sale. Il avait des ongles pleins de saleté. Il avait maigri. Il n'avait pas de chaussures. Il
devait
avoir des chics aux pieds. Mais dans sa tête, il a fait revenir l'image du petit prince qu'il était dans la maison de son père. Et il s'est regardé. Il dit, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Ça c'est ma caricature.
Je
n'ai pas toujours été comme ça. Seigneur, donne-moi quelqu'un ce soir qui va rentrer en lui-même, qui va se souvenir. Souviens-toi où tu es tombé.
Et
ce que j'aime, C'est que malgré ta déchéance, Dieu a foi en toi. Il dit, pratique tes premières œuvres. Il croit que tu peux encore le faire. J'aimerais te dire, même si toi-même tu ne crois pas, lui, il croit. Je t'entends dire dans ton cœur, jeune homme, tu ne sais pas, je suis allé trop loin. J'aime cette belle phrase que cet homme dont le corps repose à Sonabata m'a dit un jour. Pour un homme de Dieu véritablement appelé, s'il se trompe de chemin alors qu'il est sur la mauvaise voie, il dit, Dieu met toujours le billet retour dans sa poche afin qu'aussi loin qu'il va arriver, quand il aura la volonté de retourner, qu'il est aussi le moyen. J'aimerais te dire, Dieu croit que tu peux redevenir celui que tu étais. Dieu croit que tu peux redevenir celle que tu étais. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, qui a redonné à Samson plus de victoire le jour de sa mort, quand son vivant, de le faire encore. De le faire encore. Pourquoi j'aime quand les Gaël chantent? C'est encore possible. C'est pas impossible. Pratique tes premières œuvres. Et puis vient la menace. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton champ de lieu de sa place. Il promet la sanction. Mais il est un Dieu tellement bon qui termine par le positif. À moins que tu ne te répandes. Je veux te frapper. Mais tu peux m'éviter de faire ça. À moins que tu ne te répandes. Qu'est-ce que tu as perdu? Et vous savez, quand on a perdu, c'est visible. Un jour, je suis arrivé chez le pasteur Vernon un jeudi. Je ne connaissais pas trop friand de suivre les prédicateurs de mon pays. Et Jean, je le trouve au salon. On était en train de passer, puis il a trouvé un célèbre prédicateur d'ici. Il a suivi trois phrases, je l'ai entendu dire, c'est pas possible. Il m'a dit, Dalo, asseyons-nous. Et on l'a suivi durant 30 minutes. J'ai vu le feu Jacques André Vernon suivant, il pleurait et il bougeait la tête. Et puis à la fin, il s'est retourné vers moi. En me tenant la main. Et ce jour-là, j'ai découvert son cœur. Il dit, prions pour cet homme de Dieu. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, les gens qui disent qu'il n'est pas serviteur de Dieu ont tort. Il dit, il y a des vérités qu'il dit sont tellement profondes. Ça montre que c'est quelqu'un qui a connu Dieu, qui l'a touché à un degré élevé. Mais il dit, je n'arrive pas à comprendre. Il alterne des choses profondes et aux bêtises profondes. Il dit, il n'est jamais équilibré. Il dit, dans ses hauts, il est très haut, et dans ses bas, il est très bas. Il dit, c'est la preuve qu'il a touché Dieu. Mais il dit, quelque chose a dû se passer dans sa vie. Il a perdu quelque chose qui n'arrive plus à retomber. Soit il est au courant, il s'entête, soit il n'est pas au courant. Et là, dans son salon, je me suis mis à genoux avec lui. Et on a prié 45 minutes. Pour quelqu'un qui ne l'avait ni demandé et qui ne le savait pas. J'ai quitté ce jour-là, j'avais une leçon, je disais, Seigneur, donne-moi un tel cœur. J'aimerais vous dire, si vous connaissez quelqu'un qui est tombé, ne vous limitez pas à critiquer. Mettez-vous aussi à genoux. présenté devant Dieu. Car là où tout a échoué, la prière est réussie. Je le crois. La prière peut changer de vie. La prière peut faire revenir des personnes. Si vous les croyez avec moi, aidez-moi à dire amen. Troisième cas de figure. Il y a aussi ceux qui ont perdu tout et totalement. Ils n'ont plus de relation avec Dieu. Et dans cette catégorie de ceux qui ont perdu toute relation, il y a trois sous-groupes. Le premier sous-groupe, c'est le ceux qui savent qu'ils ont perdu. Seigneur, aide-moi si j'ai perdu de les savoir. Luc chapitre 2, versets 44 à 45. Après avoir eu un temps d'ignorance, vous l'avez dit, croyez que Jésus était avec le groupe des voyageurs.
Et
finalement, ils ont regardé, il n'est pas là. J'aime ce que la Bible dit. Ils rebroussèrent chemin. Seigneur, si tu n'es plus là, aide-moi à le savoir. Et à faire les trajets qu'il faut, à payer les prix qu'il faut pour aller te retrouver. Et nous
ne
limitons pas de fausses assurances. Quand il marchait au départ, il disait, c'est sûr, il doit être dans la masse. C'est sûr, il doit être là. Fais un check, vérifie, est-il vraiment là? Deuxième cas de figure. Ceux seuls qui ne les savent pas. J'ai toujours de la tristesse à lire ce passage. Le juge 16, verset 20. Moi,
je
n'ai pas plus de 10 centigrammes de cheveux quand je suis rasé. Si on le met sur la balance, ça ne va pas beaucoup bouger. Mais quand le peu qui me reste coupé, je le sens. Mais Samson avait au moins 5 kilos de cheveux. 5 kilos. Les tresses ont été coupées par conscience. Moi, avec mes quelques centigrammes, j'ai laissé. Samson, les Philistins sont sur toi.
Samson,
les
Philistins sont sur toi.
Je me dégagerai comme les autres fois. Écoutez cette phrase triste que ma Bible m'a dit.
Il
ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Il croit qu'il continue à être celui qu'il a cessé d'être. Il croit qu'il continue à avoir ce qu'il a cessé d'avoir.
Il
y a des gens qui ont perdu ne le savent pas. Assurance trompeuse. Jérémie se présente au temple. Il dit à ce groupe, ne vous livrez pas des espérances trompeuses.
Quoi?
Dérober, tuer. Offrir de l'encens à Baal. Et vous venez en cellule, vous dites, nous sommes délivrés. Espérance trompeuse. Seigneur, aide si l'église du Congo a perdu, qu'elle le sache. Troisième catégorie. C'est ceux qui ne veulent pas savoir. La deuxième catégorie, ils ne savent pas. Mais la troisième, ils ne veulent pas savoir. Malgré les avertissements. Parce qu'ils voient quelques reliquats, ils pensent qu'ils sont. Ils ont inventé leur théologie. Puisque je prophétise malgré mon impudicité, c'est que Dieu est encore là. Je tombe chaque semaine. Je vis avec des prostituées. Mais ça se termine, les gens soulèvent les chaises. Théa. Et je prends cet enthousiasme comme l'approbation que Dieu a avec moi. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Laissez-moi vous dire. On peut perdre Dieu, ne plus l'avoir, ne plus avoir son approbation et conserver plusieurs choses. On peut perdre Dieu et conserver la connaissance. On peut perdre Dieu et conserver l'influence sur les foules. On peut perdre Dieu et augmenter en relation, côtoyer même les plus grands. On peut perdre Dieu et remplir les stades. On peut perdre Dieu et avoir des comptes en banque remplis à cause de Dieu. Parlant à son fils dans la foi, Paul dira
à Timothée,
en Timothée 1, 18 à 19. Combat les bons combats de la foi. Garde une bonne conscience.
Il
dit cette conscience, quelques ailes ont perdu. Ils ont fait naufrage quant à la foi. J'aime souvent le répéter, mais je le sens dans mon cœur, ça monte. Le pasteur Vernon me disait, la conscience est la partie du divin qui se reste dans chaque homme malgré la chute. Et chez nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, le Saint-Esprit coopère avec notre conscience pour nous rappeler à l'ordre. J'aime cette dernière phrase qui me disait le plus souvent. Il disait, la conscience est comme un aiguillon qui nous pique quand nous sommes sur le point ou quand nous sommes en train de vouloir dépasser les bornes établies par Dieu. Ça te pique. Ça te dit, attention. Et là, dit cette troisième phrase que j'oublie jamais. Il dit, la conscience a deux manières de fonctionner. Elle parle. Ça, c'est un. Mais elle nous laisse l'action. La conscience te dit ce que tu dois faire. Mais elle ne fera pas les choses à ta place. C'est la conscience qui te parle. Quand le soir à 23h, il n'y a personne. Et en zappant, tu tombes sur une chaîne ou un film pornographique. La conscience te met mal à l'aise. Mais la conscience n'appuiera jamais la télécommande. Les malaises que ça te met, ça veut te dire arrête.